Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet et c'est la cinquième saison du Practice RMC, votre podcast golf de référence pour tout savoir sur les meilleurs tournois du monde, les meilleurs joueurs, les meilleurs conseils, le meilleur matériel. Abonnez-vous à notre chaîne podcast. Nos partenaires indispensables pour vous proposer ce programme, UGolf Bluegreen, Callaway et Garmin. Bon golf et bonne écoute.
Le Practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous les amoureux de la petite balle blanche au sommaire de ce 12e numéro de la saison. Bah oui, parce qu'il s'en est passé des petites choses depuis quelques heures, depuis quelques jours. Coup de tonnerre sur le Live Golf, le fonds public d'investissement saoudien se retire du circuit à la fin de la saison. Le Live est-il mort? On se posera la question et puis dans ce numéro, on répondra à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous en envoyer régulièrement des petites questions sur Instagram. On y répond sur quelques numéros, que ce soit sur le matériel, sur vos champions, sur les tournois, sur votre pratique du golf. Vous nous envoyez des questions, on y répondra avec les experts. Justement, la Dream Team aujourd'hui, Fabien Donoyan, UGolf Bluegreen, notre prof de golf du golf Bluegreen de Pessac, Ramoucho Artola, et nos éditorialistes Simon Dutin, Martin Coulon. Salut les copains.
Salut les gars.
Salut JC, salut les mecs.
Bonjour, salut tout le monde.
On pensait pas se revoir si vite, hein.
En effet.
Le problème, c'est qu'il se passe beaucoup
quand
de choses.
Quand il n'y a pas le choix. Hein,
bon. Ben oui.
Bah, il y a deux, trois trucs à raconter là, si je peux me permettre.
Bah, je pense, qu'est-ce qui se passe, les copains? C'est fou cette histoire.
Ça te surprend, toi?
C'est fou, Cameron Young qui gagne. Non, pas du tout. Non, on va pas en parler. On va évidemment parler tout de suite du Live Golf.
Le Practice RMC.
Alors, c'est un véritable coup de tonnerre, une véritable bombe qui s'est abattue jeudi sur le golfe mondial. L'Arabie Saoudite, via son fonds d'investissement, le PIF, on en parle régulièrement dans le Practice, a annoncé qu'il retirerait son financement au Live Golf à la fin de la saison. Un retrait, évidemment, qui pourrait donner un coup fatal au circuit dissident créé en 2021. Comment le Live peut-il continuer à fonctionner alors que Sava Chalet vient de se désengager? On se posera notamment cette question. Le PIF a investi environ 5 milliards de dollars depuis 2021 pour s'offrir quelques-uns des meilleurs joueurs de la planète comme Yon Ram, Bryson DeChambeau ou encore Phil Mickelson. Et dans la foulée de ce coup de tonnerre assez invraisemblable, le Live a annoncé se concentrer désormais sur la recherche de partenaires financiers à long terme. Et face à l'urgence, le Live qui parle d'évolution stratégique avec notamment la nomination de deux nouveaux administrateurs. Comme quoi, pour les gens du Live, ce n'est pas encore mort, mais pour vous, quand on voit que le fonds saoudien se désengage, le Live Golf est-il mort? C'est notre débat aujourd'hui. Tu peux commencer, Fabien Donoyan.
Bah écoute, moi je trouve que le PIF a eu du nez.
C'est lent.
Allez, plus sérieusement. Déjà, je ne vais pas être affirmatif parce que c'est toujours spéculé et je ne suis pas assez dans les arcanes pour avoir un avis tranché. Mais moi déjà, je vais les remercier d'avoir créé ce circuit. Je vais les remercier parce que le PGA Tour n'aurait pas fait sa mue depuis maintenant 2-3 ans s'il n'y avait pas eu ce circuit créé par le PIF et un circuit peut-être clivant, mais beaucoup plus moderne. Et pas clivant autant que ça, puisque non seulement le PGA Tour s'est aligné sur certains tournois, s'est aligné sur certaines dotations, mais également s'est aligné sur un autre format, un petit peu plus dans l'entertainment, et ils en avaient beaucoup moins l'habitude. J'ai envie de dire que le circuit qui a le moins suivi, c'est peut-être l'European Tour, mais comme l'European Tour est sous perfusion du PGA Tour, on peut se poser aussi la question du grand frère ou du papa qui tape sur la tête de l'European Tour en leur disant bah, « laisse-nous faire ». Donc, d'une part, je ne pense pas qu'il soit mort. Je pense qu'au contraire, il a tapé un énorme coup de pied dans la fourmilière quand il s'est créé. Je trouve normal que certains joueurs soient partis pour plusieurs raisons. Et évidemment, la raison majeure, c'est les prix qui ont été donnés, ou en tout cas les enveloppes qui ont été données à certains joueurs. D'autre part, les dotations. D'autre part, la formule au départ sur 54 trous.
Ils en sont revenus.
Mais pour une simple chose, ils sont venus pourquoi aux 72 trous? Pour aller choper les points mondiaux. Et moi, j'espère que ce circuit va perdurer. La seule énorme question qu'on peut se poser aujourd'hui, le Live a été monté sur des figures emblématiques du golf mondial. Les DeChambeau, les Rahm, les Mickelson, même si ceux-là étaient un petit peu, ou celui-là et quelques autres étaient un peu sur le déclin.
C'est un personnage du golf.
Voilà. Pourquoi je ne veux pas que ça meure? Parce que, tout simplement, ils ont apporté une modernité, un format qui est aujourd'hui pour le golf indispensable. Et on a vu la TGL arriver. Enfin, voilà. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas mourir. Maintenant, je pense que le PIF, dans l'histoire du sport et dans ce qu'ils font, ils se retirent assez souvent de ce qu'ils engagent. Donc, ce n'est même pas une surprise. Et évidemment, mais je pense qu'on ne se rend pas compte le nombre de mecs qui tapent à la porte pour être sponsor. Et contrairement à ce qu'on dit, oui, ça ne fait pas des grandes écoutes à la télé. Mais si on regarde cette année certains tournois, c'était...
On va y revenir. Là, déjà, un premier tour de table, mais il y a des choses positives, évidemment, à garder.
Donc non, c'est pas mort.
Faire le PIF. Moi, je voulais savoir déjà si c'est mort, selon vous. Mais déjà, une première sensation. Comment vous avez absorbé la nouvelle quand on a vu l'officialisation du retrait du PIF, Martin ?
Je vais enfoncer une porte ouverte. Ça ne m'a pas plus surpris que ça. Ça ne m'a pas plus surpris que ça pour un biais absolu, qui est le fait que le seul gros sponsor, le seul gros... sugar daddy presque de ce circuit, c'était une seule entité qui était le fonds souverain saoudien, le PIF, et que à partir du moment où ce fonds là dit les gars, à un moment on perd 461 millions de dollars sur une année contre 64,5 millions de profits, enfin de revenus sur une seule année, et ça tu multiplies par ça par 3 ou 4 ou 5 et que donc tu as engagé plus de 5 milliards, on parle quand même de business, quoi. Enfin, je veux dire, au-delà du sport, il y a une notion, ces gens-là, ils n'investissent pas leur argent n'importe comment. Le produit n'a pas pris. Voilà, malheureusement ou heureusement, ça, c'est pas à moi de le dire. Tu vois, j'ai pas plus d'avis que ça d'un point de vue sportif, si, mais d'un point de vue économique, ça, c'est pas à moi de le dire. Je suis pas spécialiste de l'économie. Donc, factuellement, ce circuit n'est pas mort puisque les tournois continuent, plus ou moins. Oui, mais... Il y a une ou deux dates qui ont dégagé. Enfin, tu sais pas trop, c'est incertain.
Si tu avais tes billets pour la Nouvelle-Orléans, va falloir...
Oui,
voilà. Solution, hein.
Mais c'est ouais. Hyper incertain. Tu sens que ce circuit, il est au soin intensif, quoi. Hein, voilà, parce qu'il était sous perfusion d'un énorme fonds aux poches abyssalement pleines. Mais sauf qu'au bout d'un moment, t'as beau avoir les poches pleines, tu fais pas totalement n'importe quoi, surtout en fonction de la situation géopolitique qui est un peu incertaine elle aussi.
Et surtout, évidemment, et ça on va en parler, de l'avenir des joueurs stars du LIV, parce que forcément, ces joueurs étaient très chèrement payés, il y a des renouvellements de contrats ou non, donc ça forcément, il va falloir ce qui va se passer, est-ce qu'ils peuvent réintégrer le PGA Tour. Ramucho, je te vois intervenir, et après Simon.
Non mais c'est pour... Continue ce que dit Martin, je suis étonné de son optimisme parce que sans le livre, le business du livre, est, enfin sans le PIF plutôt, le business du livre il est plus viable, quoi. Entre les contrats mirifiques, les prize money irréels et en plus des tournois à l'arrivée souvent plutôt, il me semble plutôt déficitaires, je vois pas comment on peut imaginer une suite au-delà de 26 pour le livre, quoi. À moins qu'il y ait, je sais pas moi, des nouveaux investisseurs, qui est complètement une restructuration qui se fasse, mais ce n'est pas tellement à l'ordre du jour. Et puis peut-être, je ne sais pas, mais peut-être un modèle beaucoup moins coûteux, ce n'est pas compliqué en même temps. Mais je ne sais pas, remplacer un fonds comme le PIF, je ne sais pas, ça me paraît illusoire.
Ça me fait sourire, pardon Simon, mais on a l'impression qu'on parle de notre pognon là.
Parce que c'est indécent.
Si on doit à un moment donné lister tous, parce que c'est pas indécent ce que fait le PGA Tour. Juste, j'aimerais savoir si la dotation du PGA Tour, ce qui est fait, n'est pas, pour moi, elle est pas indécente. Elle n'est pas plus ou moins indécente de ce que fait le livre. C'est là où je ne te rejoins pas. Moi, aujourd'hui, on travaille dans l'industrie du golf, que le livre soit arrivé sous un... Mais tu penses que la TGL, ce n'est pas indécent non plus. Je pense que c'est extrêmement bien pour nos métiers, notre métier, et pour les futurs passionnés de golf et les passionnés de golf. Je ne comprends pas quand tu dis c'est indécent.
Je parle pour le commun des mortels, après lesquels nous courons. Voilà, ça peut être un petit peu grossier.
Mais on arrête tous les sports, alors. On arrête la Formule 1, on arrête le foot, t'arrêtes tous les sports.
Bon, le problème, c'est qu'au golf, on le met en avant systématiquement. On va pas revenir là-dessus.
C'est vrai, mais ce débat-là, on l'a déjà eu, le PGA Tour versus le LIV. De toute façon, dans les deux circuits, il y a énormément d'argent. Donc après, on place le curseur où on a envie. Et c'est sûr que pour attirer des joueurs stars, le PIF a dû mettre la main au portefeuille pour tenter de les avoir. C'était peut-être évidemment surpayé, mais bon, si tu veux créer quelque chose, parfois, c'est comme ça que tu peux t'en sortir seulement. Ta première réaction, Simon, quand tu as vu cette information?
Comme Martin, on l'a senti arriver d'un petit peu loin quand même, les premiers signaux.
Mais pas aussi vite quand même.
Non, voilà.
Pas en plein cœur de la saison.
Un peu accéléré, mais bon, les rumeurs bruissaient. Après, tu me demandes si le livre est mort. Oui, le livre est mort sous sa forme actuelle. C'est un échec. On sait que l'Arabie Saoudite, via le PIF, cherche le soft power. Bon, ils ont tenté de créer un narratif autour de ça, mais en effet, je vais y revenir, il y a des signaux faibles qui tendent à penser que dans ce magma, là, il y a des gens qui veulent le faire survivre d'une façon ou d'une autre. En revanche, le faire survivre sous cette forme actuelle, en effet, personne va aller mettre 5 milliards sur 4 ans sans aucune perspective de retour. Parce que si tu te replonges un petit peu dans les déclarations, Scott O'Neill, le CEO du livre, il n'a pas arrêté de te dire que le succès du livre, ça ne reposait pas sur les audiences, ça ne reposait pas sur la tendance, enfin le nombre de spectateurs qui venaient. Ils ont réussi à faire croire aux villes qui hostaient les événements que... ils ont réussi à nous faire croire que grâce aux villes et au tourisme que ça allait générer dans les villes qui hostaient les événements, ils allaient gagner un petit peu d'argent comme ça. Là, il y a l'événement donc, de la Nouvelle-Orléans qui a été, alors non pas annulé, hein, attention, il a été reporté à l'automne prochain. Donc tu me trouves la date d'un tournoi du livre à l'automne, a priori. Bon, et on ne te dit pas que c'est parce qu'il n'y a plus de pognon, on te explique que c'est parce que le calendrier sportif est surchargé, que les conditions météo vont être un petit peu trop dures à supporter et que ça va tout cela abîmer un petit peu le parcours. Ce qui est intéressant à noter, c'est que alors que le PIF annonce la fin de son financement, il y a deux mecs qui ont été nommés quand même, hein, au sommet de l'organigramme du livre.
Pas des peintres,
dans la semaine. Ouais, et Eugene Davis et John Zeman. Donc, et c'est des pompiers de service qu'on appelle, hein, dans le business. C'est des mecs qui...
C'est des liquidateurs.
Alors, des liquidateurs, ça dépend. Ils n'ont pas fait que ça. Mais c'est des mecs qui viennent quand la boîte est en difficulté et qui restructurent. Et à partir de là, à partir de cette nomination, parce que là encore, les déclarations ont été très policées, il y a deux lectures. C'est-à-dire que soit ils viennent pour écoper un petit peu et récupérer l'oseille qu'il y a à récupérer. Là, tu peux te poser la question, est-ce que c'est revendre les franchises, est-ce que c'est faire leur boulot de liquidateur, ou est-ce que c'est pour se tourner vers un modèle de financement un petit peu plus nébuleux, un petit peu plus privé, avec beaucoup de parties prenantes. En revanche, en effet, le modèle d'envoyer des saladiers à des mecs qui ne sont pas heureux sur le PGA, ça, je pense qu'en effet, c'est terminé.
Ça, c'est terminé. Donc, du coup, forcément, s'il n'y a plus de joueurs stars ou si tu ne peux pas les payer comme des joueurs stars, est-ce que ça peut continuer? Est-ce que tu es toujours aussi optimiste? Oui, le livre pourrait perdurer. Mais en même temps, s'il n'y a plus les deux Chambaud et les Rams, par exemple, ça...
C'est le seul point, en fait. C'est le seul point, effectivement, qui pose une énorme question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça sera extrêmement compliqué pour le livre d'exister s'il n'y a pas des têtes d'affiche. Et aujourd'hui, ces mêmes têtes d'affiche, on ne les entend pas trop réagir. On entend... il y a beaucoup d'effervescence autour, y compris Donald Trump.
Il y a beaucoup d'incertitudes au sens large. Hein.
Qui a pris la parole en disant « Mais moi, je veux tout faire pour les remettre sur le PGA Tour. » Donc, on ne sait pas. Et puis... encore une fois, enfin là je parle, vous êtes trois journalistes, on ne sait pas exactement, clairement, ce qui se trame dans les coulisses. On veut bien nous donner, on le connaît dans d'autres sports, un petit peu ce qu'on a envie d'entendre. Et je crois, enfin, j'aurais du mal à comprendre. Le PIF, ils vont pas faire banqueroute, ils n'auraient pas fait banqueroute avec 2-3 années supplémentaires. Je pense qu'aujourd'hui, tu l'as dit, ce qui se passe au niveau géopolitique, je pense que c'est compliqué de pousser autant de pognon un peu à la tronche de tout le monde. Et effectivement, je trouve ça aussi un peu moyen. Mais un, ils n'auraient pas fait banqueroute. Deux, il y a des gens derrière, c'est sûr. Il y a de l'argent. Ce qui est un peu surprenant, c'est la rapidité avec laquelle ça s'est fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que rien du tout n'a été anticipé. Que dalle. Et dans le business, si tu n'anticipes pas un peu plus, c'est sûr que tu prends un peu cher. Et c'est un peu ça, moi, qui me dérange. Je suis assez surpris que ça n'ait pas du tout été anticipé.
Est-ce que tu penses que ça n'a pas été anticipé, sachant qu'on en a parlé dans un précédent numéro, on avait des indiscrétions comme quoi Bryson DeChambeau s'est renseigné auprès du PGA Tour pour voir les conditions dans lesquelles il pourrait revenir.
Oui, mais ça c'est depuis, JC, hein, c'est depuis que mi-avril, on a commencé à avoir ces rumeurs. Parce
oui,
que...
mais on en a déjà eu en décembre dernier, ça veut dire que tout le monde se préparait un peu
mais
à...
Mais non, tu sais pourquoi... Attends, pardon, Simon, je pense... Les mecs au Masters, enfin les mecs du livre qui ont joué le Masters, y compris un peu deux, trois claques.
Ils étaient déjà un peu.
Non, je pense. Les mecs, c'est des sportifs de haut niveau, de très haut niveau. Et l'adversité, c'est important quand on joue et c'est hyper important. En fait, c'est les meilleurs qui te tirent vers le haut. Et je pense que c'est ce qui manque un peu à ces joueurs de ce calibre, d'avoir un peu des confrontations un peu difficiles où il faut que tu élèves ton niveau de jeu et je pense que c'est ça qui les embête et qui n'ont pas trouvé sur le livre et la seule raison pour moi pour laquelle ils aimeraient revenir sur le PGA Tour c'est je trouve ça sain moi hein, c'est plutôt sportif. On a l'impression que quelque part, ils doivent se dire « Putain, attends, on s'abandonne là. Moi, je suis Bryson DeChambeau. Je n'ai pas passé le cut au Masters. Je plie tout le monde sur le livre. Ça fait 6 mois que je joue, mais incroyable. Je fais une excellente Ryder Cup, donc on peut même monter. Et là, je pense qu'il a pris une bonne grosse claque et qu'il n'allait peut-être pas non plus prendre le chèque qu'il avait envisagé. Donc, il y a plein de choses qui se sont... Maintenant, est-ce que ce n'est pas parce que on peut prendre le problème à l'envers. Est-ce qu'en interne, DeChambeau a dit non, mais moi, j'en ai marre. Je veux retourner sur le PGA Tour. Rahm a dit, ouais, peut-être moi aussi. Et que les mecs du PIF se sont dit, oh,
pris les devants.
Je suis pas tout à fait sûr de ça parce que, d'une part, moi, je pense que les joueurs sont les dindons de la farce. Alors, c'est des dindons bien farcis de la farce. Hein, parce qu'ils ont pris leur saladier. Et voilà. D'ailleurs, il y a quand même une question à poser parce que c'est des gars qui ont pour la plupart signé des contrats sur plusieurs années. Donc le PIF, ils sont bien gentils, mais ils se retirent. Mais bon, il y a des contrats qu'il va tout de même falloir honorer. Si jamais il n'y a pas de calendrier en 2027, tu fais comment ? Tu leur verses tout ce que tu leur dois. Il y a des clauses en disant que si on arrête le financement, ils sont marrons et ils se démerdent. Donc ça reste à élucider. Là où je ne suis pas tout à fait sûr d'être d'accord avec Fabien, et je détiens pas la vérité, moi je me demande... si il n'y a pas eu des tractations, parce que le Yassir, là, qui était le président du PIF... et qui,
Yassir Al-Roumayan.
Oui, en ce moment, aux États-Unis, il y a beaucoup de rumeurs là, autour de cette Performance 54 Agency, là, qui serait un organe, justement, par Akio, qui serait allé débaucher les Eugene Davis, les John Zeman. Et il y a cette petite musique qui monte comme quoi le Yassir, en fait, il ne voudrait plus être aussi exposé, mais que c'est lui qui serait peut-être éventuellement à la manœuvre. Hein, et encore une fois, on parle au conditionnel, pour la recherche d'investisseurs privés. Alors, derrière ça, tu as plusieurs scénarios possibles. Soit tu as le Shrink to Survive, ce qu'on croit connaître de Yassir, t'indique pas que c'est ça qui va se passer. Shrink to Survive, c'est en gros, tu rétrécis, tu réduis un peu la voilure, mais pour continuer sur le même modèle, ce n'est pas visiblement la direction que ça prend. Tu peux envisager un deal avec le PGA, pourquoi pas. Bon, les gars, on se remet à parler. Et là, le PGA, évidemment, en position de force.
Bah oui, il peut les manger tout cru.
Ou alors, ce que je disais tout à l'heure, tu essayes de cash out sur tes actifs. Et là, a priori, tu aurais des franchises à vendre et essayer de fourguer à des investisseurs un modèle sur la NBA. On se souvient que le CEO, il nous expliquait que les franchises, il voulait les valoriser à $1 milliard, hein, comme des trucs de NBA ou de NFL. Ça n'en prend pas non plus le chemin. Mais moi, je pense justement que les joueurs, ils tombent un peu de haut et qu'ils découvrent que finalement, ce qu'on leur avait vendu, ça tient juste au desiderata du PIF, que leur avenir, il est en suspens. Et je ne suis pas tout à fait, pour terminer, convaincu qu'un Jon Rahm, il ait les mêmes envies qu'un DeChambeau. Parce que DeChambeau, il s'est exprimé quand même chez les copains de Flush It Golf. Et il a dit, moi, je suis encore tout à fait concerné par l'avenir. Et il ne dit pas, c'est ça qui est intéressant, il ne dit pas l'avenir du livre. Il dit par le futur du golf par équipe, du team golf. Et il n'est pas impossible. Il dit, moi, je cherche des investisseurs. Je me bouge pour que ça continue par la promesse, tu sais, to grow the game, faire grandir le jeu. Et Est-ce qu'un DeChambeau, il a envie de retourner jouer tous les week-ends sur le PGA? J'ai pas l'impression que ce soit vraiment son délire. Mm-hmm. Et est-ce qu'il n'est pas en train de chercher, lui, des solutions pour continuer le golf par équipe, vendre, fourguer ça à YouTube avec de nouveaux investisseurs? Tu vois, moi, ça m'étonnerait pas que lui, il parte pour créer son
Ramoucho, vas-y. Coin.
Simon, comme l'a dit Fabien, ce sont avant tout des sportifs professionnels. Certes, ça, on ne l'oublie pas, mais ce sont avant tout des sportifs. Donc, je pense qu'un mec, même comme DeChambeau, ça lui manque d'être confronté au tout meilleur. Mais il y a quand même une condition, hormis le futur du livre, quand même, c'est qu'il va falloir aussi poser la question à tous les joueurs qui sont restés fidèles au PGA. Parce que moi, je suis bien gentil, mais je vais dire, OK, allez, vous revenez. Bon, vous avez fait une bêtise pendant quelques années. Non, mais attendez, les gars, il va falloir quand même...
Ta jurisprudence, Kopka.
Pardon ?
Ta jurisprudence.
Ouais, mais ils n'auront pas le régime Kopka.
Je pense
Kopka,
pas que,
hein.
que les autres
aient la même avec lui.
Mensuétude que pour Kopka. Hein.
Ils ne l'auront pas, je te l'annonce.
Ben, voilà, c'est clair. Donc, il va falloir quand même, au minimum, poser la question aux joueurs concernés, hein, comme Rory, etc., qui sont quand même des figures de proue. Et surtout, très, très, très bien vendre à ces joueurs le retour peut-être indispensable pour le golf de ces joueurs qui ont cédé aux sirènes, quoi, des pétrodollars.
Très bien. Si je résume.
C'est quand même une étape très, 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 très importante pour l'avenir.
Si je résume, le livre n'est pas forcément mort, en tout cas, peut-être dans la compétitivité, mais pas forcément mort parce que peut-être que le circuit va exister. Il est probable, donc, même si on n'est pas dans la coulisse, que les grands joueurs vont vouloir être rapatriés sur le PGA Tour. Vous me dites si je me trompe.
Moi, j'attends. Okay. J'attends
ça, t'es pas sûr. Mais maintenant, comment un joueur peut revenir comme ça, un petit peu la queue entre les jambes, sur le PGA Tour, Martin Coulon.
Là, tu vas rentrer dans un terrain de cas par cas, clairement. Parce que tu vas pas faire revenir... un Phil Mickelson, un Bryson DeChambeau, un Ian Poulter, un Taylor Gooch, des mecs qui avaient foutu le PGA Tour en procès au début de leur aventure du livre. Tu vas pas leur faire revenir sur le même régime qu'un Brooks Koepka qui a pris 5 millions, etc.
Mais je comprends pas ton... Koepka est revenu, ça a gêné personne.
Ouais, mais ça a gêné personne sur son
porte-monnaie. Pardon. Koepka, il fait partie du même train que DeChambeau.
La grosse différence de Koepka, c'est qu'il a fermé sa bouche, en fait.
Il les a pas attaqués au tribunal.
Le jour où il l'ouvrira, tu me feras signe parce que. C'est quand même extrêmement rare.
J'avoue qu'on l'entend pas, mais bon.
Jamais. Non, moi je. Et puis, je voudrais te laisser terminer et je répondrai à ta question.
D'accord.
Après, je
sais pas. Tu l'as coupé pour après le relancer, c'est ça. Très bien.
C'est une coupure relance. On appelle ça une attaque défense. Un coupé décalé. Non, moi ce qui me dérange là-dedans, c'est que. On est en train de parler depuis le début de cette aventure du livre d'une vraie bulle spéculative, quoi. Clairement, on était parti sur des bases complètement irrationnelles depuis le début, avec des sommes qui avaient plus de sens et qui n'en ont toujours pas aujourd'hui. Et tout ça, Fabien, toi, tu les remerciais pour le côté un peu avoir fait bouger le truc, et je te rejoins là-dessus. Par contre, moi, je les remercie absolument pas sur le fait d'avoir précipité sur ce mouvement qui était déjà entamé un brin avant entre la guéguerre PGA Tour, DP World, sur les prize money qui devenaient complètement débiles. Et quand tu vois aujourd'hui qu'un RBC Heritage, qui était il y a peut-être 3-4 ans à 2,5 millions de dollars et aujourd'hui à plus de 20, t'as envie de dire, mais on est où, quoi? Est-ce que le business du PGA Tour aujourd'hui se porte mieux maintenant qu'il y a 4-5 ans? Je suis pas sûr.
Non, mais attends,
est-ce qu'il est profitable, comme on dit? Je suis pas sûr non plus, tu vois.
Sur cette fuite en avant,
parce que moi j'ai souvent été dans le même train que toi sur les valeurs. Sur les valeurs, sur l'histoire, sur machin. Mais il faut savoir à un moment de quoi on parle. Tous ici, on est mobilisés, on a envie que ce sport se développe, que ce sport s'universalise, que ce sport atteigne les mêmes altitudes que d'autres sports plus appréciés et plus bankable, excuse-moi d'utiliser ce terme, dans le monde. Et c'est pas au moment où les price money ont augmenté sur le PGA, qui est le circuit historique, qu'on va se dire « Attends, c'est des enfoirés parce qu'ils ont obligé le PGA. » Parce que non, justement, attends, là où je rejoins
t'as
Fabien...
T'as pas compris mon idée.
Laisse-moi terminer et te prouver que j'ai vraiment rien compris. c'est que moi, là où en fait, au moment où le livre est en train peut-être de vivre son crépuscule, je suis sur la même ligne que Fabien et je me dis « Ils auront fait du bien, je l'ai beaucoup critiqué, ils auront fait du bien au golf. » Pourquoi ? Parce que au-delà du drama qu'ils ont créé et qu'on attendait, parce que franchement, on s'emmerdait un peu, il y a eu cette espèce de début de rivalité, tu vois, la dernière partie de Chambord-Rory au Masters 2024, tu vois, ou 25. Bon, il y a eu cette espèce de drama qui est monté, ça a poussé Netflix, tu vois, à feuilletonner ce truc-là, et ça a poussé voilà, les joueurs à se faire entendre, gagner ce qu'ils pensaient devoir mériter, ou qu'en tout cas, ce qui, tant qu'ils ne gagnaient pas, les poussaient à partir sur le livre. Donc moi, je me demande si finalement, le livre, ça n'aura pas été, tu vois, l'équivalent au golf de Larry Bosman au foot, quoi. Tu vois, s'il n'y aura pas eu un avant et un après-livre.
Excellente métaphore, parce que je pense exactement la même chose. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait, j'ai dit tout à l'heure, ils ont tapé un énorme coup de pied dans la fourmilière, et qu'ils ont amené autre chose. Et en amenant autre chose, ben, le PGA Tour a dû un peu, je ne vais pas redire ce que j'ai dit au début.
Un peu beaucoup.
Et que, mais moi, j'aimerais qu'on...
Mais c'est comme Uber avec les taxis, ils ont obligé le modèle historique à réagir,
oui, mais
à s'adapter.
N'allons pas dans l'argent. Moi, j'aimerais qu'on aille dans la modernité. Ouais. Et j'aimerais qu'on aille dans... On est en 2026. Et aujourd'hui, tu le dis pour certaines industries, mais tout le monde bouge. Moi, je m'en fous. C'est marrant qu'aujourd'hui, vous vous offusquiez. Alors que j'ai pas arrêté de dire pendant je ne sais pas combien d'années sur le PGA Tour, il y avait autant de pognon que sur le livre, machin. La seule chose, pardon, JC, j'aurais juste terminé là-dessus. Moi, je rêve, et si n'importe qui, et pourquoi pas Trump, parce que le PGA Tour crée une catégorie, parce qu'il y a plein, il faut que vous sachiez sur les circuits, il y a plein de catégories dans lesquelles les joueurs, anciens vainqueurs, a eu ses cartes, un machin, et qui crée une catégorie pour ces joueurs, et qu'ils puissent revenir jouer.
Ok, ça c'est ton appel, mais moi ce que je voulais dire, et on n'est pas obligé forcément de parler que d'argent, mais sur la promesse du livre qui était la modernité, la musique, le moins nombre de tours, on peut un peu s'habiller comme on veut, enfin le côté...
Le shotgun.
Non mais ça c'est
très...
Juste pour dire que c'était très moderne, et ça c'est super. Après on peut constater que dans toute cette modernité, qu'est-ce qui au final a pris?
Mais moi, ça n'a pas ruisselé du tout.
Moi, je me pose la question. Alors, moi, je trouve que c'était génial.
Mais est-ce que ça a marché? Tu sais pourquoi? Parce que je pense, pardon Ramoud, une des erreurs qu'ils ont faites, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher des têtes d'affiches très connues, ils ont pris un peu des seconds couteaux. Il y avait des mecs qui jouaient extrêmement bien sur le PGA Tour, les Niemann, les Smith, et qui ont pris un peu ce circuit pour des vacances. Et moi, ce qui me dérange, c'est que, à mon sens, ce circuit, il n'a pas été assez bien manager. C'est-à-dire que moi, j'aurais réuni les mecs en disant « Oh, les gars, non seulement on vous a fait des ponts d'or, non seulement on vous fait jouer là, non seulement machin. Donc maintenant, ça suffit, s'il vous plaît, jouez comme de vrais sportifs. »
Mais comment
et c'est plutôt
veux...
ça...
Mais ça, c'est pas possible, ça. Comment tu veux leur demander à ces mecs-là, où tu leur as fait justement un pont d'or, en les attirant, leur donnant des centaines de millions de dollars?
Non, mais ça, on sait même pas s'ils ont tous gagné des centaines.
Arrête,
Alors, si tu le sais, moi, je veux que tu m'amènes la preuve.
Regarde les comptes.
Non,
t'as halluciné des sommes qui sont engagées sur ce compte.
Montre-moi les comptes. Je veux voir que Ram a touché 500 millions. Je veux voir que machin...
Mais est-ce qu'il les a touchés? Il a signé pour les toucher, est-ce qu'il les a déjà touchés, par exemple?
Non, tu parlais d'entreprise tout à l'heure. Moi, je peux t'assurer qu'on regarde, quand on gère une entreprise, toutes les lignes. Mm-hmm. Et donc, je voudrais être certain que ces joueurs-là ont vraiment touché ce qu'on dit, c'est-à-dire les 500, 300, 250. J'aimerais le voir. Je ne dis pas que c'est faux. Je dis simplement que j'aimerais le voir.
Tu peux les trouver, les comptes du livre.
Mais Martin, ça fait trop longtemps que t'es dans le golf. À l'époque de Ballesteros et machin, les mecs touchaient combien? C'était 300 000 francs, 500 000 francs. Et à l'époque du franc... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a toujours existé.
Oui, mais très bien. Restons pas sur cette idée, parce que si on se dit...
Vous parlez de pognon, allons sur le pognon.
Moi, je parlais pas de pognon, je t'ai pas lancé là-dessus. C'est toi qui es revenu sur le pognon. Moi, je t'ai lancé sur le côté la modernité.
Alors moi, la modernité...
Faire tourner la balle, la modernité du livre, et on était tous plus ou moins, même si ça nous gênait de voir certains joueurs partir, ok, mais on se disait, mais tiens, pourquoi pas, il y a un truc super. Mais au final, si le livre part en vrille dans 6 mois, qu'est-ce qu'on retiendra du livre? Moi, j'aimerais bien savoir.
Moi, je retiendrai qu'il y a eu des tentatives qui étaient plus ou moins intéressantes. Mais le vrai truc qui te dit que c'est successful ou pas, que ça a du succès ou non, c'est l'audience. Ça n'a jamais fait d'audience. Ça n'en a jamais fait. Et les pauvres contrats qu'ils ont réussi à signer avec des broadcasters, excuse-moi, 2,8 millions en 2024, 2,9 en 2023.
Donne-moi l'audience du DP.
Mais je m'en fous.
Et ça fait 4 ans que les audiences, mises à part
c'est justement
certains
ça,
majeurs,
vous m'avez pas laissé terminer
les audiences du PGA Tour, elles plongent.
Mais les audiences de tout le monde plongent. Les audiences du PGA Tour plongent. Le PGA Tour, depuis quelques mois, licencie des gens au siège.
Bah ouais.
Tu trouves que c'est une entreprise qui va bien, ça ?
Avec des
dotations dans tous les sens qui deviennent irrationnelles, parce qu'il fallait continuer cette course en avant
Scott O'Neill n'a pas arrêté de répéter que c'était pas un baromètre du succès du livre, que les audiences c'était pas leur préoccupation.
Non, mais le livre ou le PGA Tour, je peux t'assurer que le PGA Tour.
Ah ben oui, bien sûr, parce que le PGA Tour, je crois que c'est dans un an, à la fin de la saison 2027, qu'il y a une renégociation des droits télé. Et
le Gugus dont j'ai perdu le nom qui est arrivé là, c'est pas pour enfiler des perles.
Eugene Davis, alors il a dit qu'il était là pour attirer et sécuriser du capital à long terme et préparer la suite. Il a été CEO d'un cabinet de conseil, là, c'est ce que j'ai trouvé en cherchant. Conseil en restructuration.
Non, pas lui, je te parle du mec du PGA Tour.
Ryan Rolapp. Ah bah écoute, je sais pas ce qu'il l'a dit pour l'instant au PGA.
Martin l'a dit, c'est factuel, le golf ne fait plus recette à la télé ou dans les médias. Comme ça le faisait.
Je vais pas enfoncer les portes ouvertes, mais tous les sports perdent de l'audience et tous les sports se demandent comment essayer de t'attirer un nouveau public.
La F1 a perdu.
Ah oui, les audiences sont en baisse.
Bien sûr.
De la F1.
Mais c'est pour ça qu'ils ont créé Drive to Survive. C'est pour ça.
Non, mais là, à l'heure actuelle, ça perd pas. La F1, c'est paraît-il que ça rebondit.
Écoute, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je sais que tous les sports essayent de s'adapter à la nouvelle,
au
nouveau mode de consommation. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, justement, le livre, on pouvait apprécier parce que c'était un nouveau mode de consommation, peut-être que les gens pouvaient se plaire là-dedans, mais force est de constater que ça n'a jamais trouvé son public. Et donc, et c'est ça on est tous gênés là-dessus, mais je veux dire, à partir du moment où ça ne trouve pas son public, peut-être que le PIF s'en est rendu compte et ils se sont dit, ok, on va pas rester là-dedans parce que de toute façon, ça ne nous apportera rien de bon.
Là où je mettrais un bémol, c'est que le PIF, il se désengage du livre, mais le PIF, il finance notamment le Ladies European Tour. A priori, ils n'ont pas annoncé qu'ils allaient retirer leur financement. Donc, je veux dire,
c'est pas le même financement non plus.
Non, certainement pas. Mais je veux dire, va dire aux arcanes du golf féminin que le PIF n'est pas important dans leur développement. Je pense qu'ils vont tousser un peu. Et on peut se réjouir qu'ils soient là parce que c'est bon pour le développement du golf féminin. Mais en effet, le livre, une fois qu'il aura crevé, le PGA qui est en train de se frotter les mains et qui fait la danse, qui va danser sur sa tombe, il sera en position de force. Et qui te dit qu'ils n'organiseront pas une fois dans l'année un tournoi où tu as les départs en shotgun, un tournoi où tu as du...
Les idées, si elles sont bonnes.
Ce serait bien ça, mais ce serait top.
Et voilà, mais il n'est pas interdit de penser que...
À 144 joueurs, tu ne peux pas, hein, mais à 72, tu peux.
Ouais, et qu'ils fassent des champs réduits. Mais,
les tournois signatures.
Les tournois signatures.
Si les mecs acceptent de jouer à 4 par partie, oui. Ça met quand même plusieurs. Déjà qu'ils mettent 6 heures à 3.
Mais typiquement, les tournois, les signature events, ils n'auraient pas vu le jour. Sans le livre.
C'est
sûr et certain.
Mais bien sûr.
Donc rien que ça, va dire au mec du PGA, alors le livre, vous l'avez toujours mauvaise, ils vont te dire, non, ils nous ont forcés à élever le curseur dialoguer avec les joueurs, et ils nous ont forcés à progresser.
Sur le dialogue avec les joueurs et sur l'implication des joueurs par rapport aux produits qu'eux-mêmes proposent et qu'ils sont en eux-mêmes, ça oui, je suis d'accord. Par contre, sur le côté élévation, encore une fois, des prize money à des niveaux complètement débiles et à te faire je sais pas combien de elevated events, des machins, mais ça n'a aucun sens. Ça fait partie, à mon sens, de cette bulle spéculative au sens pur du terme.
La course à l'échalote, quoi.
La course à l'échalote complète, qui avait déjà été entamée entre le PGA Tour et le DP et qui a été accentuée par le livre. C'est en ça où moi je les remercie.
C'est la même chose dans tous les sports aujourd'hui.
Oui, mais sauf que là,
aujourd'hui, un joueur de foot, il part à 150 millions, alors qu'il y a 20 ou 30 ans, il n'aurait pas valu 20 millions d'euros. Je veux dire, c'est dans tous les sports pareil. Je veux dire,
mais Simon, est-ce que tu achètes, parce que ce qui ressort du livre via le PGA Tour, c'est la création de signatures Ceinture Event, est-ce que vous achetez ces tournois en circuit fermé, on se partage le gâteau en 80 joueurs?
Bah, non, il suffit qu'ils rajoutent un cut ben voilà, un oui, de mais ces a... jours et moi j'achèterais totalement. Ça m'excite de voir des tournois où il y a juste les 50 ou je sais pas combien, 70 meilleurs joueurs mondiaux. Si tu rajoutes un cut et que tu rends ça un peu sexy, je pense qu'ils ont compris d'ailleurs, parce qu'on a suffisamment parlé des pistes de réforme envisagées par le PGA avant même les rumeurs de mort du livre. Je te signe que les signature events, il y en aura au moins certains avec des cuts à partir de la saison prochaine.
En toute sincérité, cette année, sortez-moi un ou deux tournois qui vous ont fait vibrer.
Oui,
le player, évidemment. C'était bien.
Le player c'est le Masters. Voilà. Et que ça soit signature, paraf ou ce que tu veux, on s'est fait chier.
Tu rejoins totalement mon propos à dire que ça ne sert à rien de faire la course à l'échalote si tu ne te réfléchis pas à avoir un produit de tournois, avoir des identités de tournois, des identités de parcours.
Eh bien, le livre a amené, et c'est pour ça que je trouve...
Oui, je suis d'accord. Ouais, il y avait un côté intéressant sur ça.
Et je vais revenir à chaque fois que je la sors, mais...
Quoi, l'histoire du pif qu'a du nez ?
Non.
Pif gadget, le gadget du pif ?
J'ai vécu, moi, un livre en vrai. Sincèrement, c'était la première finale à Miami, j'ai trouvé ultra canon deux choses. Un, comme les mecs jouent en shotgun, ils arrivaient tous, en tant que spectateur,
au même moment.
Ils arrivaient tous au même moment, donc tu te régalais d'avoir ces mecs-là au practice à 5-10 minutes d'intervalle, sur un tournoi classique où tu les prends le matin, où tu les prends le soir, mais tu les as pas en même temps. Et le shotgun, parce qu'à un moment donné sur le shotgun, ce qui est canon, c'est que tu sais que tu vas pouvoir pendant...
Tout le monde joue ses 18 parties en même temps. Quoi.
Et
le score évolue.
Et ça, pour moi...
C'est comme un multiplex en foot.
Exactement. Ouais. Et je trouve qu'à la télé, quand tu es spectateur, mais c'est une valeur ajoutée de dingue. Donc, si le livre disparaît, j'aimerais...
Que le PGA Tour retienne ça.
Ouais, vraiment.
Au moins.
Okay. Ouais, le côté entertainment, mais ils n'en ont pas du tout.
On est parti rapidement sur les joueurs parce que c'est ce qui nous préoccupe. Alors là, le livre, on a bien compris que ça sentait un peu les marrons. Mais pour les joueurs, est-ce que pour un Jon Rahm, pour un Bryson DeChambeau, c'est facile de retourner sur le PGA Tour?
S'en sortiront.
Non, mais est-ce qu'il va falloir qu'ils fassent vraiment amende honorable? Pardon, je vous baise les pieds.
Ah, plus que ça, évidemment, parce que Brooks Koepka.
Oui, mais le PGA Tour, on a besoin quand même des joueurs comme ça.
Regarde la différence de traitement entre Brooks Koepka qui reste
pour des raisons
qui m'échappent moi encore, une icône aux États-Unis parce que c'est le mec bodybuildé, le beau gosse, il a 5 majeurs, bon c'est ça manque de variété, il les a pas tous, mais et un Patrick Reed pourtant vainqueur du Masters mais qui est le vilain petit canard et qui lui a dû se faner, tu vois
il y a des statuts quand t'es Rahm et quand t'es Bryson DeChambeau.
Je reste sur mon point, j'attends que Bryson DeChambeau, après les déclarations qu'il a faites, nous disent, alors visiblement ils se moquent un petit peu de nous parce que en effet il y a quand même des pas des preuves, mais bon oui, des gens qui savent que son entourage a parlé au PGA évidemment, au cas où ça partirait en marmelade, mais est-ce que lui veut vraiment se cogner les pénalités, l'autoflagellation, le walk of shame pour revenir sur le PGA? Je suis pas certain, j'attends encore de voir, parce que une nouvelle fois, je maintiens, c'est important les mots. Il n'a pas défendu le Live Golf, il a défendu le Team Golf. Et lui, visiblement, ça le branche bien. Et je suis persuadé qu'il a un plan derrière tout ça pour nous fourguer un grand truc via YouTube. Jon Rahm, c'est différent, c'est intéressant parce que Jon Rahm, quand il a voulu quitter le PGA, on lui a dit « Attends, viens, on va discuter et tout ». Il ne voulait pas, il ne voulait rien savoir, il a voulu parler à personne. Là, l'an dernier, quand il y a eu les premières, donc Koepka et Reed qui reviennent, on sait que le PGA, ils ont dit « Bon, et les gars, Rahm, Cam Smith, DeChambeau, ça ne vous branche pas de faire comme les copains, de revenir sur le PGA ?» Il paraît que Jon Rahm, il a répondu à personne. Il a dit « Je parle à personne ». Bon, ben, très bien, il y a eu l'histoire de l'extorsion sur le DP World Tour qui lui proposait ce programme de jouer tant de tournois pour machin. Bon, il a fait la forte tête, Jon Rahm. Et maintenant que le PGA va être en position de force, j'attends de voir ce qu'on va lui proposer.
Ça, c'est pour les gros joueurs, Victor Pérez.
Les joueurs premium, ils vont
trier autres, ça.
Les joueurs du livre, vous démerdez.
Ramucho.
Non, je suis d'accord. Les joueurs premium qu'a cité Simon.
Ouais, c'est vrai. Le
PGA Tour va y trouver son compte, évidemment. Ils vont se faire désirer, ils vont se faire désirer, ils vont trouver un moyen pour trouver un accord. En revanche, les joueurs qui viennent d'arriver, où les joueurs restent en pied livre, un joueur moyen de Live Tour a des soucis à se faire, ça c'est clair. Mais à moins que des étoiles comme Rory et Woods nous grattent la gorge, je ne vois pas de problème pour les retours de... je ne crois pas au niveau honnêteté, hein, franchement. Mais les stars du livre vont revenir sans problème parce que les PJ va y trouver son compte également. Franchement.
Mais il n'est pas à la retraite, Rory, là ?
C'est sûr que ces retours, ils seront pas gratuits. Tant d'un point de vue pécunier pur et dur que d'un point de vue allez bouffer votre pain noir, les gars, d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, comme ce que fait Patrick Reed depuis le début de l'année sur le DP World pour regagner sa place comme un grand garçon. On parle de Q-School pour certaines catégories de joueurs du livre, t'imagines le
alors
truc,
moi
quoi.
Je suis un peu plus mesuré, Martin, parce que encore une fois je vais citer quelqu'un qui prend des décisions, je vais pas le citer d'ailleurs, un peu rapide et qui adore le golf, qui est très présent dans le golf. Et je pense que lui, il a un vrai pouvoir. C'est Donald. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il met les mains là-dedans...
Mais il l'a dit, hein. Il l'a déclaré d'ailleurs. Quoi, il aimerait bien que les joueurs reviennent sur le
golf. Et puis, quand même...
Et Bryson partage des parties avec Trump.
Et parce que Rory, il était... il le voit, il lui fait signe. Ils sont potes. Je parle pas de politique. Je pense que Rory, il l'aime parce que il est passionné de golf. Et de la même chose pour Bryson. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, il aime le golf. Il joue au golf. Et moi, j'ai envie que le mec, s'il peut pousser pour que demain, enfin, on ait les meilleurs joueurs du monde ensemble.
Moi, j'aurais tendance à dire qu'il s'intéresse surtout à déjà ce qu'il a à s'intéresser et qu'il fait sa manière, on va dire, et puis qu'il laisse les gens du milieu gérer leur milieu comme ils l'entendent et que le jeu en lui-même revienne au centre des débats.
Le jeu, il reviendra que s'il y a les joueurs, Martin.
Bah ouais, mais si les joueurs font n'importe quoi, partent aux premières sirènes avec les centaines de millions de dollars qu'on t'agite devant la tronche, qui font bien sûr, le PGA Tour, vous êtes des gros bâtards, nous on s'en va, et puis débrouillez-vous, des shotguns et des machins.
Excuse-moi, pourquoi tu résumes à l'argent ?
Mais parce que ça s'est résumé à ça, Fabien, depuis le début, ça se résume à ça. Ne va pas me faire croire.
Non.
Tu t'étonnes depuis tout à l'heure que John Rahm et Bryson DeChambeau aient du mal à dire que sportivement parlant, ils ont trouvé leur compte.
Alors, déjà,
sans déconner, quoi.
Non, alors, attends.
Sans déconner.
Parce que les mecs du PGA Tour, ils n'ont pas trouvé leur compte.
Mais on parle des gars du livre, là.
Non. Ben oui, mais tu les compares.
Prends la main pour te relancer, justement, Fabien. La différence entre vous deux, et là où c'est vrai que ça peut s'entendre, c'est que le PGA Tour, évidemment, qu'ils ont monté leur prize money et qu'ils ont fait la course à l'échalote. Sauf que le PGA Tour, il y a un standing à aller jouer au PGA Tour. Pour un joueur, aller jouer sur le PGA Tour, mais parce que c'est dû à l'histoire, ça veut dire quelque chose. Alors que jouer pour le livre, si on t'agite pas de chèque, tu vas jamais de la vie. C'est ça veut te dire
directement, oui, c'est ça.
Non, mais. Ok, enfin, il y avait la facilité. En fait, ils ont voulu aller vite. Et pour aller vite, ils ont filé. Maintenant, je suis moins sûr qu'aujourd'hui, et ça me désole, hein, que le PGA Tour ait toujours sa splendeur.
Mais je suis d'accord avec toi. Le PGA Tour a perdu des plumes dans cette
histoire-là.
Et moi,
ce qui aujourd'hui me dérange aussi, c'est que les mecs qu'on cite, ils ont quand même gagné des gros tournois et des majeurs en jouant sur le livre. Il ne faut pas qu'on l'oublie non plus. On a des membres à part entière du Live Golf, qui ont gagné des majeurs et qui les ont gagnés au nez à la barbe des meilleurs joueurs du PGA Tour. Sauf que là, on a l'impression qu'on vit une période un peu de ventre mou, où le PGA Tour a du mal à trouver son second souffle, le Live est en train de mourir, l'European Tour qui est mort derrière. C'est pour ça que je trouve, moi, que c'est peut-être pas si mal que le livre, c'est derrière nous dans quelques mois.
C'est la politique de la terre brûlée.
Que les mecs, mais c'est pas la terre brûlée. C'est-à-dire, c'est pas la terre brûlée. C'est pas moi qui ai fait brûler la terre. Ce sont eux qui, ce sont eux qui se sont brûlés.
Yassir Al-Romayen, je t'ai dévoilé.
Ce sont eux.
Je t'ai reconnu.
Ce sont eux qui se sont brûlés tout seuls. Oui. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est peut-être un mal pour un bien, et que ce qu'a amené le livre, on s'en souviendra. Et je suis d'accord, et j'ai trouvé ta métaphore géniale, c'est peut-être une forme d'arrêt de Bosman pour le golf.
Amen, les copains. Voilà pour ce débat et on en reparlera à coup sûr du live. Bon, les amis, on a reçu depuis le début de la saison pas mal de questions, donc j'aimerais vous les soumettre et comme ça vous pouvez répondre. En plus, ça tombe bien. On a Médéric de Callaway, on a Romain de Garmin, on a notre prof de golf, on a notre éditorialiste et il y en a un petit peu pour tout le monde. J'en ai sélectionné quelques-unes. Tout d'abord, j'ai Bastien qui nous dit que son index, qu'il joue 11, mais qu'il a beaucoup de mal à descendre à un chiffre. Quel entraînement je peux mettre en place pour y parvenir? Quelle serait la clé? Je me tourne vers toi évidemment, Ramucho, c'est toi le prof de golf. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour tous les joueurs comme ça qui ont du mal, qui n'arrivent pas à passer ce palier?
C'est avoir un entraînement avec à chaque fois du challenge, que ce soit sur des coups autour du green, que ce soit sur le green, se mettre des challenges régulièrement. Ceux qui rencontrent en situation de jeu, en situation de compétition, voilà, ça n'est pas uniquement taper des balles pour mécaniser son mouvement. Là, s'il veut taper des balles, eh bien, il va se focaliser sur une chose, sur le centrage de sa balle et la création de trajectoire. Donc, centrage de balle, création de trajectoire, autour du green, sur le green, s'imposer des challenges pour que lorsqu'il a une approche putt à produire pour sauver son score, qu'il ne soit pas démuni.
Ok, c'est bon, tu voulais réagir.
Je suis exactement
aussi
dans la même situation que Bastien.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et déjà, alors, c'est de la palissade, mais l'entraînement, voilà, il faut avoir le temps de s'entraîner. Et très souvent, c'est vrai, quand on va jouer, on a envie d'aller très vite sur le parcours. Mais bon, à ce handicap-là, j'imagine qu'il a des mises en jeu correctes, qu'il s'est tapé dans la balle. Donc, moi, j'ai envie de lui conseiller les axes de progression que je me suis fixé, c'est régulation, scrambling, et puis on en revient toujours là à ce jeu, le putting. Quoi. Voilà. Quand on se met à rentrer des putts, à ce jeu, on gagne des coups. Mais régulation, voilà, c'est fondamental. Et en cas d'absence de régulation, le scrambling, on le voit chaque week-end sur les tournois, parce qu'on parle souvent du chipping, des coups roulés autour des greens, mais en fait, ces coups-là, on les joue quand on n'est pas en régulation et c'est nécessaire, voire vital, si on veut garder son score et à terme le faire baisser.
Moi, Médéric, tu voulais une question, pour rebondir sur ça, parce qu'on parle de l'entraînement souvent, mais je trouve qu'on ne valorise pas assez le fait que c'est bien de s'entraîner, mais pour bien s'entraîner, je pense qu'il faut aussi aller voir un pro. Et c'est là, j'ai une question pour Ramucho, parce que forcément, vu que c'est ton domaine, pour ce passage de, entre guillemets, deux chiffres à un chiffre, si demain, ça devait être mon cas, est-ce que tu as une pas une cadence, mais un programme, une récurrence à avoir sur potentiellement un nombre de leçons à prendre avec son pro, combien de temps laisser entre deux séances, est-ce que ça, c'est des choses, alors j'imagine que ça dépend de chaque golfeur, mais souvent on l'oublie et on va s'entraîner, mais si on n'a pas les bases et qu'on ne fait pas un check-up avant ça et de se dire ok, je vais travailler le driving parce que je drive mal, alors qu'au final c'est pas si mauvais et qu'il y a du putting qui est peut-être l'axe d'évolution plus importante. Voilà.
En fait, lorsque on a des joueurs qui veulent vraiment progresser et descendre en index, en fait, on est très demandeur, je suis très demandeur de ce qui se passe sur le parcours et de noter exactement où sont les points forts, donc les greens à régulation, les fairways pris, enfin des choses basiques, hein, combien d'approches putt. Et là, on a un état des lieux en situation de jeu, en situation réelle, et à partir de ce retour concret, on travaille, on présente un axe de travail par rapport à ces points faibles qui peuvent être évidemment montés en gamme. Voilà, donc c'est vraiment des retours de la part du joueur par rapport à ce qui se passe sur le parcours. Et à partir de là, on travaille sur le practice à améliorer tel et tel secteur de jeu. Et je suis aussi très, très partisan du fait d'accompagner un joueur, ne serait-ce que 9 trous. Et on est surpris du comportement du joueur lorsqu'il est sur le parcours, qui est assez différent parfois de la sérénité qui part au practice.
Ok, donc emmener son pro sur le parcours sans pour lui montrer vraiment ses failles et ce qu'il faut absolument travailler. Ça, c'est un super conseil. Antoine qui nous demande, c'est un petit jugement, mais j'ai sélectionné ça parce que je pense qu'il a un peu raison de nous le dire. Antoine nous dit, je vous trouve parfois un peu sévère avec Rory McIlroy et beaucoup moins avec d'autres joueurs européens qui n'ont pas son palmarès. J'aimerais savoir pourquoi.
Moi, je veux bien commencer, moi.
Vas-y.
Dommage que Fabien soit pas là.
On va l'appeler Fabien, tiens.
Et
vas-y.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, Rory, moi, c'est un joueur que j'adore et que j'ai envie qu'il gagne tout. Pardon. J'ai envie de le voir tout gagner et du coup, dès qu'il met à côté, forcément, ça me frustre. Et c'est pour ça que je suis un peu plus exigeant avec lui, moi, à titre personnel.
Ok, non mais très bien. C'est les rançons de la gloire, ouais, d'être une star et une figure. Ouais. C'est le statut qui veut ça, c'est ça ?
Ouais, exactement.
C'est pour ça qu'on est sévère, les copains ?
On est sévère parce que aussi sur le parcours, il est très humain, donc il a des comportements et il rate entre guillemets des coups qu'on ne pensait pas lui prêter à ce niveau-là. Voilà, donc ouais. C'est pour ça
qu'il réussit des coups absolument fantastiques.
On tombe de la table et on se dit mais Rory il est comme nous finalement, c'est le côté positif. Mais il n'a pas le droit non plus de rater ce putt, de rater ce wedge, etc. Comme il a pu le faire des années. Voilà, c'est parce qu'il simplement hyper humain qu'effectivement parfois on lui tombe dessus. Oui.
Et au golf, il faut rappeler quand même qu'on perd quasiment toutes les semaines et une fois de temps en temps on gagne.
C'est comme le tennis. Ouais.
Voilà, pour perdre, il faut être en situation de gagner. Rory, on le voit à la télé, dès qu'il joue en tournoi, tu es quasiment sûr de le voir à la télé le dimanche, ce qui n'est pas le cas des autres joueurs. Et tu es obligé de faire le comparatif avec un Scottie Scheffler, je ne sais plus après quel tournoi. On lui a dit ah, ça ne va pas dans votre jeu là, en ce moment c'est compliqué. Hein. Il a dit mais frérot, je suis 25 ou 22e, est en train de m'expliquer que mon jeu se délite, que ça va pas. Non, j'ai connu des... Enfin, pour moi, la crise, okay. c'est pas ça.
Donc, on est critique avec ceux qui performent le mieux et avec notamment les deux numéro 1, les deux meilleurs joueurs du monde. J'ai bien compris. Isabelle nous demande, ça va être pour Médéric, la patate chaude. Quels sont les meilleurs wedges du marché? C'est sa question. Et elle nous dit qu'en fait, elle joue habituellement, j'ai un 52 et un 56 dans mon sac. Est-ce que je dois changer de loft ou vu que je me suis habitué avec cela, je dois rester sur les mêmes. Donc double question.
Alors forcément, la première, je vais être obligé de dire la vérité, c'est forcément des wedges Callaway. par contre, pour savoir si effectivement 52, 56 sont les bons wedges, le seul moyen, et là je ne pourrais rien faire, mais le seul moyen c'est d'aller les tester. Les tester sur les journées fitting, où là on a tout ce qu'il faut, quelle que soit la région où on joue au golf, où là on va pouvoir tester différents shafts, différentes longueurs, différents lies. Même maintenant sur les wedges, on peut jouer sur le lie et sur le loft, donc on peut le modifier en direct. Le choix de la semelle va être extrêmement important. Après, souvent, en fonction de la composition de la série, donc si on s'arrête au pitch qui en général fait 43-44 degrés ou à l'approche wedge qui va en faire 48, derrière on va venir compléter avec les approches wedge et les sand wedge ou gap wedge et sand wedge. Effectivement, si elle joue depuis 15 ans avec un 52-56,
faut pas bouger.
C'est pas qu'il faut pas bouger, mais c'est pas si simple. C'est pas je vais changer mes loges, je vais lever la balle un peu plus au 58 par exemple. Je serais presque plus d'avis en tout cas à essayer de rajouter un club s'il y a de la place et dans ce cas-là peut-être de mettre un 60 en plus qui apporterait ce qui pourrait ça pourrait lui permettre de combler le trou des sorties de bunker compliquées ou des lob shots ou des roughs très denses. Plutôt que de se dire, je vais prendre un 58, ça va faire le travail entre le 56 et le 60.
Ok, moi j'ajoute une question, de wedge, ça suffit dans le sac.
Ça dépend, moi j'enlèverais des clubs là-haut, là, au lieu d'avoir 3-4 bois, 2-3 hybrides, je mettrais plus de wedge, parce qu'au final, c'est... en fait, souvent, on a l'impression qu'entre le 56 et parfois entre l'approche wedge en 48 et le 56, ouais. C'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est « ah bah j'en ai pas besoin ouais. ». Ou entre le pitch et le 56, « ah bah j'ai un pitch et un 100
wedge ». 6-8 degrés, c'est énorme.
12, 13, 14 degrés d'écart, c'est énorme. C'est comme si on mettait rien entre le fer 5 et le fer 8. Okay. Déjà que de taper un club... à la même distance tout le temps, c'est juste pas possible. Quel que soit le niveau, c'est très compliqué. Si en plus de ça, on se tire une balle dans le pied en s'enlevant des opportunités ou en tout cas des choix dans le sac, je trouve ça dommage. Donc j'irais dans un premier temps peut-être démarrer au 52. Si elle aime bien le 52, elle a sa distance. Et derrière, voir si on fait 56-60 ou que le 58, si elle s'est habituée, si elle s'habitue facilement au changement d'angle de décollage et à la distance qu'elle va pouvoir faire avec le 58 par rapport au 56.
Ok, j'ai bien compris sur la notion de Callaway aussi pour aller chercher ses wedges. Oui,
oui, pour conduire ce que dit Médéric, c'est vrai qu'avoir dans son sac deux minimum, je dirais même trois wedges, gap, etc., on a de suite une création de trajectoire. Et autour d'un green, on est moins perdu. Il suffit de prendre si on a une butte ou si on a un drapeau au fond. Voilà, j'ai tel club pour. Alors que ce que je vois souvent en course, c'est un joueur, une joueuse qui a un club à tout faire, mais qui le ferme, qui l'ouvre, qui le torture, qui le tord, qui le déforme. Et du coup, ça a vraiment des conséquences de résultats. Alors qu'avoir trois clubs, trois wedges, 300 wedges qui me permettent d'avoir une trajectoire et d'être paré quelle que soit la situation, c'est quand même très utile. Oui.
Et je rebondis sur ça. Donc, on parlait juste avant du fait qu'on était très exigeant avec Rory, mais souvent, on est très exigeant avec nous-mêmes. C'est quand on loupe un coup, on pense que ça ne vient que de la technique. Et il faut savoir qu'un club pas adapté, par exemple un bounce ou une semelle très arrondie sur un links, on a beau faire tout ce qu'on veut, ça ne va pas pouvoir le faire. Donc, si je pousse un peu plus loin, c'est deux wedges. Et parfois même, on peut imaginer avoir un wedge supplémentaire qu'on n'utilise pas forcément sur tous les parcours.
OK.
Parcours avec un sol tendre et de l'autre côté, un sol très sec. Voilà,
c'est... Les copains, très rapidement, parce que je vois Romain et j'ai une question pour toi. Il y a Malik, en tout cas, j'imagine qu'elle est pour toi. Malik, je vois beaucoup de joueurs avec des montres et des télémètres. Les deux sont-ils vraiment utiles et qu'est-ce que vous me conseillez d'acheter en premier?
Moi, la première question que je vais poser, c'est... Enfin, je vais essayer d'apprendre à connaître la personnalité. Ça va dépendre de son niveau de jeu et de ses attentes. En général, je caricature un peu les choses, mais la montre, c'est un outil qui est vraiment très accessible, qui est très intuitif et qui va convenir à tous les types de golfeurs, que tu sois du débutant à bon joueur. Et après, si tu pars sur des lunettes, en général, ça va plus correspondre à des gens qui ont un niveau de jeu un peu plus précis, un peu plus important. Et donc là, tu vas les joueurs à un chiffre, en général, ils ont besoin d'être un peu plus précis au centre. Mètres près, donc là tu pars sur du télémètre. Voilà,
ok. Des bons trucs chez Garmin
et chez Garmin. Voilà, on a tout, mais l'avantage qu'on a chez Garmin, c'est qu'on a tout un écosystème, donc on essaie d'accompagner un peu tous les joueurs, tous les types de joueurs. D'ailleurs, on se focus pas forcément que sur les bons joueurs, c'est parfois quelque chose qu'on peut imaginer, mais c'est pas vrai. Donc, il y a des montres qui existent, donc tous les niveaux. Ensuite, on a les télémètres pour les gens qui veulent être un peu plus précis, d'autant plus qu'on ajoute maintenant de la cartographie en 2D à l'intérieur, ce qui permet de prévoir aussi tes repérages de parcours, avoir les obstacles directement dans la visée. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Puis après, on a tout ce qui est radar aussi, qui permet justement de faire tes wedging, de faire toutes tes pyramides, tout ça. C'est des outils qui sont très appréciés des joueurs un peu plus pros, parce que c'est la routine, c'est comme ça, c'est des outils qui sont bien appréciés. Et puis ceux qui n'aiment pas porter des montres, mais qui ont aussi envie d'avoir une cartographie à portée de main et quelque chose de visible, ils vont plus privilégier des GPS portables de ce type-là. Et après, ceux qui veulent jouer toute l'année, il y a des radars et des simulateurs que tu peux intégrer chez toi ou emmener avec toi au practice ou utiliser aussi avec des pros, parce que c'est des choses aussi qu'on peut combiner et c'est assez intéressant. Donc voilà, on a vraiment vraiment tout un écosystème autour de ça.
Bon, bah c'est parfait, je vous invite évidemment à aller regarder les copains et surtout j'ai pas mal de questions, donc vous nous posez des questions sur Instagram et comme ça à chaque fin de podcast je ferai une petite séance et une petite tournée des questions, des principales questions des auditeurs. Merci à tous de nous suivre, on vous embrasse les amis. On va se retrouver, j'espère que vous êtes là, lundi 18 mai pour débriefer le deuxième majeur de la saison, l'USPGA. Ok, nous on sera là en tout cas. D'ici là, bon golf à tous, on vous embrasse.
Merci.
Et bye merci.
Bye. Salut.
Les copains, salut.
Merci.
Le Practice RMC.